Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ, ce soir et demain soir, portrait de Jacques Rancière. Demain, vous l'écouterez, il a été enregistré la semaine dernière. Et ce soir, première émission, 13 juin 2011. Hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Jacques Rancière. Jacques Rancière, vous êtes philosophe, historien, cinéphile, spécialiste de l'esthétique. Vous avez une œuvre immense. Et je voulais savoir dans quel type d'éducation vous aviez été élevé.
Je dirais une éducation, je dirais tout à fait normale. Bon, moi, j'ai grandi dans la 4e République, donc vous voyez un petit peu le type d'atmosphère, un peu, bon, bah, disons d'après la guerre, disons d'une France de la Reconstruction. Bon, j'ai grandi à l'école publique. En même temps, j'étais aussi un jeune catholique, donc aussi influencé un petit
catholique.
Peu.
Catholique.
Oui, tout à fait. Enfin, et donc voilà, bon, influencé aussi donc par un certain christianisme. Un peu progressiste de l'époque, quoi.
Et ensuite, 68, vous l'avez vécu comment?
Oh ben, ça c'était quand même après. Bon, entre temps, j'étais devenu marxiste quand même et althussérien. Donc, je l'ai vécu au départ un peu comme, disons, un renversement de toutes mes croyances, parce que, j'ai été un jeune marxiste althussérien, donc je croyais que tous ces petits jeunes, petits bourgeois qui s'agitaient de manière un peu désordonnée, il fallait que la science d'abord les éduque, quoi. Donc, effectivement, quand j'ai vu qu'ils se révoltaient contre l'autorité du savoir, au début, j'ai été un peu choqué. Après ça, je me suis dit que peut-être il fallait prendre les choses à l'envers et que l'autorité du savoir sur laquelle on avait vécu et l'idée qu'il fallait apporter la science aux gens pour qu'ils se révoltent et se libèrent était peut-être une idée à réexaminer.
Alors nous allons entendre la voix de Louis Althusser. Il va parler de l'actualité de la pensée de Marx, des rapports entre le mouvement ouvrier et la théorie marxiste. C'est une archive de France Culture du 24 septembre 1976.
Ce n'est pas par hasard si Marx est encore vivant. Pourquoi donc est-il vivant ? Mais je crois qu'il est vivant pour deux raisons, qui sont une seule et même raison, mais il faudrait examiner la façon dont ces deux raisons s'articulent l'une à l'autre. Il est d'abord vivant parce qu'il a donné une théorie du mode de production capitaliste et de sa loi tendancielle. Il a donné non seulement la théorie descriptive de ce qui existait de son temps, mais dans le Capital même, il a prévu la tendance selon laquelle le mode de production capitaliste se développerait. La théorie de Marx n'était donc pas une théorie figée, elle était au contraire une théorie pour comprendre l'évolution d'un mode de production, pour comprendre son avenir et pour comprendre l'échéance de son histoire, à savoir les révolutions sociales, les révolutions socialistes et le passage au socialisme. Donc Marx a donné au prolétariat, puisque c'est pour lui qu'il écrivait, il a donné une arme, qui est l'arme d'une théorie scientifique permettant de comprendre les grandes lois tendancielles du mode de production capitaliste, donc permettant de comprendre le cours de l'histoire dans le monde contemporain, bien au-delà, par conséquent, de la période qui va de 1850 à 1883, date de sa mort. Par conséquent, l'actualité de Marx est d'abord une actualité scientifique. Elle est en même temps une actualité philosophique. Car en faisant la théorie du mode de production capitaliste, en faisant la théorie des conditions de la lutte de classe et des formes de la lutte de classe, Marx a bouleversé l'ancienne conception de la philosophie. Avec Marx, et à travers la pratique des organisations politiques qui ont été fondées, à travers la pratique du mouvement ouvrier, à travers la pratique des luttes de classe ouvrière, quelque chose a changé dans ce qu'on peut appeler la condition du monde, la conception du monde. Quelque chose a changé dans ce qu'on peut appeler la façon d'envisager les choses, la façon de poser des problèmes, la façon de poser des questions. Un certain nombre de questions ont été éludées comme étant illusoires, d'autres questions ont été posées qui n'avaient jamais été posées. Et si l'on cherche ce que Marx a apporté peut-être de plus profond, c'est, je dirais, l'unité entre sa théorie scientifique et ses positions philosophiques, et cette unité est profondément politique. C'est ce que Marx disait lorsqu'il écrivait dans le Capital cette simple phrase « Mon livre représente une classe, le prolétariat ». Représenter une classe, c'est représenter ses positions, c'est par conséquent s'engager dans la lutte de cette classe. Et c'est unir à l'intérieur de cette lutte à la fois la théorie scientifique et la position philosophique. Et c'est non seulement unir à l'intérieur de cette lutte la position philosophique et la théorie scientifique, mais c'est aussi fournir à cette classe de quoi développer cette lutte, des armes pour développer cette lutte, des armes pour s'organiser. C'est lier le destin de cette théorie à la lutte de cette classe. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire du mouvement ouvrier la fusion de la théorie marxiste et du mouvement ouvrier. Fusion qui ne s'est pas faite par la simple adhésion intellectuelle des prolétaires à la théorie marxiste, mais qui s'est faite à travers des organisations politiques, à travers des partis politiques, à travers une ligne politique élaborée par ces partis politiques. Et je crois que finalement, ce en quoi Marx est toujours actuel, c'est dans la conscience que les problèmes théoriques et les problèmes philosophiques du mouvement ouvrier sont liés à des problèmes politiques. Et que tous les problèmes du marxisme se posent à l'intérieur de cette liaison avec les rapports de force politique.
Nous venons d'entendre la voix d'Althusser, c'était donc en 1976, et vous, 2 ans avant, vous publiez chez Gallimard un livre qui s'intitulait « La leçon d'Althusser, Jacques Rancière ». Et il y a beaucoup de choses dans cette archive, il y a à la fois l'actualité de Marx, qui peut encore, je crois, se lire aujourd'hui comme des livres qui permettent de comprendre notre monde contemporain. Et puis il y a aussi l'articulation de Marx avec le marxisme et avec les organisations politiques, qui là est peut-être plus problématique.
Oui, bon, il y a la présence de Marx, la présence, on peut dire continue de Marx, elle est d'abord la présence de ce que Marx a nommé, il n'est pas le premier, mais qu'il a nommé de façon la plus explicite, à savoir la lutte des classes, quoi. Donc on peut dire que, tant que la lutte des classes existera, Marx aura une actualité. Bon, alors la lutte des classes a, disons, des changements. Bon, on voit bien qu'en ce moment, c'est plutôt ce que Marx appelait la classe bourgeoise qui a l'initiative, mais c'est pas parce que l'initiative a changé de camp que la lutte des classes n'existe pas. On voit au contraire qu'elle est de plus en plus virulente. Bon, on a vu récemment un État des États-Unis, par exemple, décréter simplement qu'on n'avait plus le droit de se réunir en syndicat pour négocier les salaires. Bon, ce qui prouve que la lutte des classes se porte bien, merci, même si c'est pas toujours la façon dont elle aimerait qu'elle se porte, quoi. Alors, bon, l'idée d'Althusser, c'est l'actualité de Marx et l'actualité de la science qui permet de connaître, donc de transformer, absorber, incorporer par un parti que le parti de la classe ouvrière. Alors là, bon, je dirais qu'il y a toute une série de présupposés, effectivement, qui me paraissent difficilement tenables, à savoir d'abord le présupposé global que si les gens sont dominés, c'est parce qu'ils savent pas les lois de la domination, qu'il faut les armer, que si on a effectivement une théorie et un parti pour les armer, alors ça ira bien, quoi. Bon, c'est deuxièmement, effectivement, je dirais chez Althusser, cette espèce de névrose d'identification, c'est-à-dire que il faut vraiment que la classe ouvrière, le parti, le mouvement ouvrier, ce soit véritablement des corps correspondant à leur essence. Et on voit bien que dans le tremblé un petit peu de la voix, c'est en 76, donc je crois que c'est quand même peu avant, la rupture de fait d'Althusser avec le Parti communiste, ou en tout cas c'est à peu près la même époque, il y a toujours cette espèce de tension où Althusser dit des choses complètement orthodoxes, mais qui en même temps doivent paraître un peu hétérodoxes aux gens qui ont toujours l'oreille fine. Voilà, donc il y a cette espèce pour moi un petit peu de drame qu'on sent dans la voix, quoi, de quelqu'un qui essaye toujours de parler au sein d'une organisation effective qui a ses règles de pouvoir extrêmement lourdes, comme s'il parlait, je dirais, au nom du parti éternel, de la classe ouvrière éternelle.
Que vous a-t-il apporté et comment vous êtes-vous émancipé de sa pensée ?
Bon, ce qui m'a apporté, c'est d'une certaine façon l'occasion d'une remise en question. Moi, je vous dis, je venais un petit peu d'un univers que l'on pourrait dire humaniste chrétien, comme beaucoup de gens à l'époque. Vous savez, le premier livre sur Marx qu'on lisait, c'était le livre du père Calvez. À l'époque, c'était véritablement les jésuites qui avaient fait le plus gros travail, sur Marx. Il y avait aussi, l'influence de Sartre, la critique de la raison dialectique. Donc, j'avais une espèce de vision un peu humaniste, Marx vu à travers le jeune Marx, un petit peu la ligne, une sorte de libération de l'homme. Évidemment, Althusser arrivait complètement là contre en disant il y a l'homme zéro, c'est le procès sans sujet, c'est la discipline de la théorie, de la pensée, du parti. Et donc voilà, je dirais qu'à chaque fois qu'on est amené à travailler contre soi-même, on avance forcément, quoi. Et j'ai avancé avec Althusser. Par rapport à une pensée évolutionniste de l'histoire, Althusser remettait en question cette pensée évolutionniste de l'histoire, et en même temps, il y était encore enfermé. Donc, je dirais que, en un sens, j'ai pris au sérieux ce que Althusser ne prenait qu'à moitié au sérieux. Je veux dire par là la critique de l'évolutionnisme, la critique de toute une théorie de la nécessité historique. C'est-à-dire que j'ai été amené, de plus en plus à penser que les révolutions, les révoltes n'étaient pas le résultat d'un processus historique avec un bel enchaînement des causes et des effets, mais que c'était une série d'émergences dont les causes étaient beaucoup plus complexes et finalement beaucoup moins, liées à une sorte d'évolution, de nécessité économique et historique.
Alors, vous avez été l'inventeur d'une revue qui a beaucoup compté pour nous faire comprendre l'historicité du mouvement ouvrier. Cette revue s'intitulait Révolte logique. On voit bien où vous avez pris le titre. Et je me demande si finalement l'articulation entre la philosophie, la recherche des archives, la volonté de donner voix, corps à des gens qui sont des oubliés de l'histoire, se sont pas articulés à l'intérieur de votre pensée, Jacques Rancière, d'une manière finalement polyphonique. On a l'impression que ces trois mouvements ont avancé ensemble.
Oui, dans mon cas, je crois que il y a toujours comme plusieurs motifs qui se mêlent. Je crois pas du tout à l'idée de la théorie comme justement l'idée centrale qui va se développer, se ramifier. Non, je crois qu'on est c'est pas ce que disait Bergson. Bergson disait que un philosophe développé ou un grand penseur développe toujours une seule intuition, une seule idée. Non, je crois qu'il y a toujours justement plusieurs idées, plusieurs intuitions qui forcément ne collent pas ensemble, quoi. Moi, je suis parti dans la recherche historique avec d'abord, au départ, une idée un peu simple, qu'on pourrait dire positiviste, à savoir je vais regarder comment vraiment les ouvriers ont pensé, pourquoi ils se révoltaient, comment ils s'organisaient pour se révolter. Et puis, il y a eu le contact avec l'archive. Le contact avec l'archive, ça veut dire que, on se met au risque de ne pas trouver ce qu'on cherchait et de trouver éventuellement le contraire de ce qu'on cherchait, quoi. C'était l'époque où on parlait beaucoup des révoltes sauvages. On avait toute une espèce d'idée de la vraie révolte sortant du corps ouvrier comme une explosion. Et puis, je suis tombé sur une multitude de textes, soit des textes de collectivités en grève qui étaient extraordinairement argumentées, respectueuses, disant non, on n'est pas la masse des révoltés, on est des gens qui proposent des choses raisonnables et vous n'avez qu'à les regarder et les discuter, quoi. Puis d'un autre côté, j'avais un petit peu toutes ces correspondances d'ouvriers qui s'occupaient de poésie, de métaphysique et de toute autre chose donc que de la lutte contre le capital.
Alors nous allons écouter la voix de Jean Val, qui va se demander et nous demander si on peut être à la fois philosophe, historien de la philosophie et poète. C'est une archive du 16 août 1958.
Peut-on être historien de la philosophie, philosophe et poète? Et je crois qu'il y a un très grand danger à mêler philosophie et poésie. Et je ne serai jamais sûr d'y avoir complètement échappé. Mais, comme d'autres, comme Heidegger entre autres, je pense que la philosophie peut s'achever dans une certaine mesure dans la poésie. Heidegger aime commenter les œuvres des poètes. Je ne m'interrogerai pas sur sa légère œuvre poétique, je veux dire légère au sens de brève, et peut-être pourrait-on dire contre ce que on peut appeler mon œuvre poétique, la même chose que contre cette brève œuvre heideggerienne. Il n'en est pas moins vrai que, pour lui, c'est à partir du poète que doit se dégager la pensée la plus profonde du philosophe, que, suivant son expression, bien que situé sur des montagnes séparées, poésie et philosophie, poésie et pensée profonde se répondent l'une à l'autre. Pour moi, le philosophe peut partir des poètes, mais en même temps, à partir d'un certain moment, il est lui-même poète. C'est que devant la chose, le philosophe est relativement impuissant et laisse la voix au poète. Et nous en dirions autant de l'idée de monde. C'est un des caractères de la phénoménologie contemporaine d'avoir insisté sur cet horizon des horizons, comme dit Heidegger, qu'est le monde. Mais que pouvons-nous dire de ce monde? C'est là que le poète peut prendre la parole. Univers, mon immense frère, car je ne suis en toi ni de toi, et pourtant nous sommes liés par la commune destinée. Je te parle, tu me réponds presque. Je te vois à travers les brumes, nous roulons au but inconnu, nés du même père inconnu, univers, frère mal connu. Mais si nous disons cela, c'est donc qu'au-delà de l'univers, il y a quelque chose. Et c'est ici que la philosophie se tait, et que la poésie se tait presque. Car c'est un trait particulier de la poésie que, aussi importante que les paroles qu'elle prononce, est important le silence duquel elle émerge et dans lequel elle plonge. Et ce silence est peut-être signe de quelque chose, et ce peut-être, nous ne devons pas le transformer en une affirmation, il reste un peut-être.
Nous venons d'entendre la voix de Jean Val, qui était un merveilleux conteur et un grand philosophe. Est-ce que sa pensée vous a influencé, Jacques Rancière?
Sa pensée, non. En revanche, ce qui m'a influencé, c'est que le premier cours de philosophie que j'ai entendu de ma vie, c'était à la radio. Il y avait le cours public, c'était l'époque des cours publics de la Sorbonne, et il y avait ce cours de Jean Val qui s'appelait justement, je crois, Défense et élargissement de la philosophie, le recours aux poètes. Et cette année-là, il faisait un cours sur Rilke. Je connaissais même pas le nom, quoi, si vous voulez. Tout d'un coup, ça a été pour moi une révélation. Donc effectivement, je dirais que cette sorte d'entrée dans la philosophie par la voie de la poésie a été importante pour moi. Cela dit, je dirais que le rapport entre philosophie et poésie, je le pense tout à fait différemment. On voit bien comment chez Jean Val, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, je m'en rends compte aujourd'hui. Philosophie et poésie se rapportent l'une à l'autre comme la pensée profonde et la pensée qui se tient un petit peu devant l'origine. Donc pour moi, maintenant que j'entends ça, c'est une espèce de mythification de la poésie comme l'espèce de pensée essentielle qui se tient comme ça un petit peu à la lisière de l'être. Et j'avoue que c'est une conception, effectivement, très heideggerienne de la poésie, de laquelle je suis très écarté maintenant. Et si je dirais qu'il y a un lien entre philosophie et poésie, c'est plutôt parce que la philosophie est poétique au sens où la philosophie est un arrangement de mots, de phrases qui essayent un petit peu de forcer un sens, de créer un sens nouveau au milieu des énoncés du sens commun. Donc, même si elle veut être un métalangage, même si elle veut être la science de la science, la pensée de la pensée, en définitive, elle est soumise à la condition commune de la pensée et du langage, à savoir qu'on fait des phrases, on utilise les mots de tout le monde et la grammaire de tout le monde pour essayer de produire des déplacements dans ce que tout le monde pense.
Alors nous avons trouvé pour vous, Jacques Rancière, une archive absolument incroyable. C'est la voix de Virginia Woolf. C'est une archive de la BBC. La date de l'enregistrement n'a pas été communiquée. Nous allons l'écouter.
Words, English words, in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas. Old words, in new orders, so they survive.
Des mots, les mots anglais, un pays, l'Angleterre avec des traditions, des castes, une évolution, un territoire, le langage.
C'est très court, on a reconnu la voix de Viviane Forrester qui traduit Virginia Woolf, et je crois que les vagues ont énormément influencé votre manière d'écrire et de prendre à bras-le-corps ce texte essentiel que vous avez intitulé « La nuit des prolétaires », Jacques Rancière.
Oui, bon, là, je me suis toujours senti, enfin, depuis que je l'ai lu, bon, très proche, effectivement, de cette sensibilité de Virginia Woolf, de cet effort pour dire non pas l'originaire, mais plutôt quelque chose comme l'impalpable. Bon, et puis évidemment, j'ai été sensible à la construction des vagues. Bon, je le rappelle, les vagues est construit comme une histoire commune racontée par six personnages, une histoire commune donc avec six voix. Qui vont de la voix la plus raisonnable à la voix résolument schizophrène, et en même temps ces six personnages parlant autour d'un absent, donc ce personnage fabuleux, bon, qui s'appelle évidemment pas par hasard Perceval, quoi, qui est comme ça comme le héros pour tous et qui s'en va mourir aux Indes. Et c'est comme ça que j'ai été amené à construire la nuit des prolétaires, non pas comme disons les thèses sur la classe ouvrière qui s'écrivaient toujours, enfin souvent à l'époque sur le modèle de la brousse, à savoir on parle de l'économie, on monte au social, du social au politique, du politique à l'idéologique. J'ai construit ça comme un ensemble de voix, c'est-à-dire c'est un livre sur les gens qui ont 20 ans en 1830, qui en 1830, au moment de la révolution de juillet, ont l'idée qu'un nouveau monde s'ouvre, et c'est un livre sur la façon dont les gens vivent ces 50 années qui vont suivre cette grande ouverture, cette apparition d'une voix du peuple, quoi. J'ai pris un petit peu tous ces textes ouvriers, les petits récits qu'il y a dans les journaux ouvriers, les grandes descriptions extasiées de la révolution de 1848, mais aussi tous les conflits, les discours des communautés utopiques où on se déchire plus ou moins. Bon, j'ai tenté d'en faire comme cette espèce de polyphonie qui fait ressentir la texture d'une expérience, parce que il y a une perception, il y a une saisie du monde sensible dans lequel ils vivent, il y a des mots dans lesquels ils transcrivent ça, il y a des philosophies dans lesquelles ils élaborent cette perception, et nous devons considérer la totalité de cette expérience. Au fond, la philosophie, souvent se pense justement comme devant penser une expérience que les gens sont incapables de penser, et la pensée de l'idéologie chez Marx, chez Althusser, c'est toujours ça aussi, à savoir que les gens savent pas ce qui leur arrive, quoi. Et bon, j'ai dit non, les gens savent ce qui leur arrive, et il y a une révolution, quelque chose, une cassure qui arrive, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font de cette cassure ?
Alors justement, dans la parole ouvrière, vous faites une grosse préface, mais après vous restituez la voix de ces ouvrières et de ces ouvriers. Je vais lire un très court extrait d'une lettre aux travailleurs qui date de 1841, de Charles Noiret. Alors ce Charles Noiret écrit... Mes chers camarades, on nous répète tous les jours et nous croyons sans examen que l'homme est fait pour travailler. C'est une erreur. L'homme n'est pas plus fait pour travailler que les autres animaux. Il naît pour vivre et comme pour vivre il faut manger, il est contraint de chercher sa pâture. Si, de même que les autres espèces que nous n'avons pu réduire en servitude, nous nous étions contentés de ce que la terre produisait elle-même, nous ne serions pas aujourd'hui condamnés au travail. En Amérique, en Afrique et même en Asie, il y a des peuplades errantes qui ne travaillent pas, ils vivent de racines, de fruits sauvages ou de chasse et de pêche. Mais il nous a fallu des commodités, des jouissances. En cherchant le bien-être, nous avons trouvé l'esclavage. C'est un court extrait pour expliquer à quel point cette pensée ouvrière est articulée, elle est sensible, elle est politique, elle est intellectuelle. Et ce qu'on découvre grâce à votre travail d'exhumation de ces archives, Jacques Rancière, c'est cette pensée ouvrière polymorphe et qui se nourrit de plusieurs registres. Alors on peut se demander, en lisant ces archives que vous nous permettez donc de comprendre et qui imprègnent notre univers mental et psychique, à quelle source s'alimentaient ces ouvriers qui, objectivement, vivaient dans des conditions de travail absolument épouvantables? Il n'y avait pas les 35 heures, c'était plutôt 12 heures de travail par jour. Comment faisaient-ils pour s'instruire et pour nous restituer leur pensée du monde?
Bon, c'est finalement très, 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 très difficile à savoir. Parce que il n'existait pas l'instruction obligatoire.
Oui, ils n'allaient pas à l'école.
Ils allaient un peu à l'école, si, quand même. Je pense qu'ils allaient un petit peu à l'école. Bon, il y a eu les premières lois sur l'instruction primaire. Bon, c'est Guizot, donc c'est les années 1830. Ils allaient un peu à l'école, mais c'est certainement pas à l'école, qu'on leur a enseigné ou Rousseau ou Platon ou même la Révolution française. Donc, je crois que ils allaient un petit peu au hasard. Il est clair que malgré tout, à l'époque, Victor Hugo, Georges Sand, par exemple, ils les lisent, quoi. Il y avait beaucoup à l'époque aussi une culture un peu de morceaux choisis, quoi. Maintenant, il y a l'homme ça, tout d'un coup, un jour, un dimanche sur un marché, on tombe sur un livre, et puis un livre quelconque, on l'achète comme ça sans savoir ce que c'est dedans, ce qu'il y a dedans, et puis ça vous ouvre tout d'un coup des univers absolument incroyables. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette histoire qu'on trouve dans tous les récits ouvriers, on la trouve aussi dans des romans, de romanciers établis, comme chez Balzac, notamment dans le Curé de village, cette incroyable histoire de la petite fille de ferrailleur, comme ça, qui un jour trouve un Paul et Virginie qu'elle achète uniquement pour l'image, et puis qui tout d'un coup va lui ouvrir le monde de l'idéal, avec des conséquences absolument catastrophiques. Elle va devenir la complice d'un criminel. Mais en un sens, Balzac nous livre en quelque sorte le sens des choses à l'envers, à savoir que il suffit d'un livre, il suffit de quelques fragments de textes, de paroles comme ça qui est échappé, qui circule, et puis il y a tout un univers nouveau qui se découvre, toute une rupture du tissu sensible dans lequel les gens vivaient.
Quelle est la signification de l'archive? À quoi sert une archive? Comment faire vivre une archive? Nous allons entendre la voix de Michel Foucault qui va nous parler de l'évolution des méthodes employées par les historiens dans leur manière d'utiliser les archives. C'est un extrait d'une émission qui a eu lieu le 10 juillet 1969, où il va s'exprimer dans le cadre d'un débat qui réunissait aussi Emmanuel Leroy-Ladurie et Jacques Le Goff.
Il me semble que dans l'histoire traditionnelle, l'objet privilégié, c'était le texte écrit, et on essayait de choisir dans ces textes écrits ceux qui étaient les plus représentatifs ou les plus expressifs de quelque chose qui était soit une mentalité, soit une attitude, soit une espèce de philosophie d'une époque. Maintenant, j'admire beaucoup la liberté et en même temps la rigueur avec laquelle ils traitent les textes. Liberté dans la mesure où ils acceptent les bons et les mauvais textes, en un sens, les nobles et les non-nobles. Liberté par laquelle ils confrontent des textes qui sont d'origine ou de localisation très différents. Et puis, d'un autre côté, il y a une rigueur certaine dans la manière dont il traite ces textes. Au lieu d'utiliser une méthode interprétative pour savoir ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière ces textes, il les traite au fond comme des choses, comme des objets, et ceci de différentes manières, soit en les confrontant directement avec des objets. Moi, je suis enthousiasmé à ce que vient de dire Leroy-Ladurie lorsqu'il dit « Eh bien voilà, on va comparer des textes avec des troncs d'arbres ». Le texte et le tronc d'arbre sont dans un rapport en quelque sorte d'homogénéité. Il n'y a pas un privilège du texte. Le texte ne doit pas exprimer le tronc d'arbre. Le texte, c'est un phénomène, un objet historique, exactement comme le tronc d'arbre et le tronc d'arbre comme le texte. D'où l'abolition, enfin, de ce concept sacralisé de l'écriture. Et puis, ces textes étant devenus en quelque sorte de même nature que des choses, alors ils les font passer dans des machines et ils les traitent comme des documents quantitatifs, des documents en tout cas qui doivent révéler des fréquences, des itérations, des courbes, des relations, des systèmes, etc. Et je crois que ça, c'est tout de même une mutation très grande dans l'attitude et la méthode de l'historien.
Et quel est le rapport de l'histoire ainsi redéfinie et de l'archéologie au sens où vous l'avez pratiquée dans l'histoire de la folie, la naissance de la clinique, les mots et les choses, et telle que vous venez de la théoriser plus précisément dans l'archéologie du savoir?
Oui, vous savez, moi je n'ai fait que suivre dans un domaine qui était évidemment assez difficile, je n'ai fait que suivre la leçon qui me paraissait transparaître des travaux des historiens. Je me suis intéressé surtout à ce domaine qu'on appelle l'histoire des sciences ou l'histoire des idées, que j'aimerais mieux appeler l'histoire des savoirs, n'est-ce pas ? Domaine qui est mal connu et où régnait et règnent encore maintenant les concepts philosophiques les plus traditionnels. L'idée, par exemple, d'évolution, l'idée de progrès, l'idée de continuité, l'expression, la méthode interprétative, tout ça règne encore dans ce domaine-là de l'histoire, alors que les historiens se sont affranchis de tout cet appareil dans leurs travaux à eux. Et je me demande si on ne pourrait pas, parmi toutes ces études, arriver à trouver quelque chose qui serait une nouvelle définition de l'histoire. Et je ne sais pas, ça je soumets cette proposition aux historiens. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'histoire, ce n'est plus la description des évolutions, ce n'est pas le repérage d'un progrès, ce n'est pas non plus le récit du devenir, car cette notion de devenir est philosophique, cette notion de progrès est une notion éthique, éthico-politique, la notion d'évolution est une notion biologique. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir l'objet propre de l'histoire comme la transformation ? L'histoire, ce serait l'analyse des transformations.
Que pensez-vous de cette définition de l'histoire par Michel Foucault, Jacques Rancière ?
Bon, j'ai disons un peu le même sentiment que Foucault est, disons, au milieu des historiens, un petit peu comme Althusser par rapport aux partis. C'est-à-dire que, bon, d'une certaine façon, il essaye de trouver comme une espèce de compromis entre sa propre vision de l'histoire et ce qui pense, en quelque sorte, qui le fera reconnaître, ou en tout cas, qui fera comme une espèce de terrain d'entente avec les historiens. Et donc, notamment, il y a cette espèce de référence un peu étrange quand même malgré tout à l'histoire quantitative, bon, qu'il faut congédier l'écriture au profit de la statistique qui va en quelque sorte analyser tous les textes qu'on pourrait analyser toutes les écorces d'arbres, quoi, pour savoir comment étaient les arbres à telle époque de l'histoire. Or, bon, si on pense bien sûr au traitement de l'archive qu'a fait Michel Foucault, si on pense au travail sur Pierre Rivière par exemple, il est clair que c'est justement pas le texte tronc d'arbre qui doit rentrer dans l'ordinateur avec une multitude d'autres textes. C'est le contraire. C'est le texte qui fait rupture. C'est que quelqu'un parle qui ne devrait pas parler, quoi. C'est pas que Pierre Rivière ait tué son père. Les meurtres de famille, il y en avait beaucoup à l'époque. Bon, ça, finalement, c'était pas... Enfin, même si celui de Pierre Rivière était particulièrement terrible, quoi. Le cas Pierre Rivière, ce qui le rend vraiment, un peu transgressif, c'est pas les meurtres. C'est la justification du meurtre, c'est le fait qu'avant, il en a écrit la justification, les raisons, qu'il a expliqué que situer toute sa famille, enfin père, frère, sœur, c'était pour faire plaisir à son père, d'une certaine façon, pour réhabiliter son père, victime de sa femme, et avec toute une argumentation qui est aussi fondée sur la Bible. Et donc, si vous voulez, je pense que le traitement réel de l'archive par Michel Foucault, ou disons ce qu'il faisait à l'époque sur les prisons, est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est une histoire des émergences. Bon, on sait qu'après Foucault lancera cette jolie notion de la vie des hommes infâmes, quoi. Donc je dirais que pour moi faire de l'histoire, c'est pas proposer une théorie générale de ce que font les historiens, c'est plutôt faire quelque chose comme apparaître ce qui n'apparaissait pas, ou faire apparaître comme du discours ce qui n'apparaissait que comme une espèce de rumeur confuse qui effectivement était uniquement justiciable d'un traitement statistique.
Alors, ce qui est très étrange dans votre itinéraire, Jacques Rancière, c'est que vous avez publié de nombreux livres, donc La leçon d'Althusser, La parole ouvrière, La nuit des prolétaires, Le philosophe et ses pauvres, Le maître ignorant, Court voyage au pays du peuple, Au bord du politique, Les noms de l'histoire, Mallarmé, La politique de la sirène, La mésentente, Arrêt sur histoire, La chair des mots, La parole muette, Le partage du sensible, L'inconscient esthétique. Donc on voit à l'intérieur de votre bibliographie comment effectivement vous commencez à évoluer par l'intermédiaire de l'esthétique en entrelaçant l'histoire à l'esthétique. Mais à partir donc de 2001, il y a une sorte de renaissance, il y a un nouveau Jacques Rancière qui apparaît, c'est le Jacques Rancière qui est cinéphile. Nous allons écouter un extrait d'un film, je crois que c'est celui-là qui vous a ouvert à l'amour du cinéma. Thank you.
Bortmissorio bitterhet Oro och bekymmer Denna plats blott lustfallhet Lek och kärlek rymmer Låt oss endast glädjas här Nöjet blott är vår affär Älska och förnuftet Är eder föreskriven Om man ej vore kär ah. Vad vore livet? Akta den här Fredrik, en stor vattenpuss.
Vous avez retrouvé, j'imagine, ce film?
Pas du tout, non.
Sourire d'une nuit d'été. Bergman.
Ah, oui, je pensais bien Bergman, mais bon, effectivement, vous avez raison, mais j'identifiais pas le film, donc je déroulais un petit peu tous les Bergman dans ma tête, mais j'étais pas remonté jusque là. Mais...
Alors, est-ce vrai que Bergman vous a ouvert à l'amour du cinéma et ensuite vous a entraîné dans les chemins de la cinéphilie?
Bon, c'est vrai que Sourire d'une nuit d'été, pour moi, il restait un petit peu historique parce que, à l'époque, j'étais en Cagne et, disons, un jour, en sortant du lycée, j'avais le choix entre soit réviser les États-Unis et les États-Unis pour le programme d'histoire du concours de Normale, soit d'aller voir Sourire d'une nuit d'été. Je suis allé voir Sourire d'une nuit d'été, je n'ai jamais étudié les États-Unis, les États-Unis sont tombés au concours. Voilà, donc, en un sens, Sourire d'une nuit d'été a été un moment important dans ma vie et c'est vrai que ma première découverte...
Mais vous ne le regrettez toujours pas aujourd'hui.
Je ne le regrette pas aujourd'hui, ça m'a fait perdre une année, mais finalement, cette perte d'une année m'a été profitable pour Bergman et pour beaucoup d'autres choses aussi, quoi. Mais je dirais que ça a été comme effectivement une première couche, une première découverte, et avec peut-être un rapport un peu naïf, c'est-à-dire que je me souviens que ce que j'avais aimé dans ce film, c'est peut-être des choses qui sont pas vraiment l'essentiel de l'art du cinéma. Bon, par exemple, je me souviens d'un retour dans la nuit, comme ça, où on voit les trois personnages, et on voit leur reflet dans une flaque d'eau, ou bien, c'est Ulla Jacobson dans son miroir. Donc, je dirais que c'est tout à côté, un petit peu, je dirais, en quelque sorte, peut-être de l'esthétique ordinaire du cinéma qui m'a séduit, qui est peut-être pas ce qu'il y a de plus essentiel dans Bergman, mais c'est vrai qu'en plus, bon, il y avait cette espèce, en quelque sorte, je dirais, de lien entre une fascination pour les apparences et tout le brio incroyable de ces acteurs magnifiques, quoi. Bon, en même temps, après, dans les années 60, j'ai été sous l'influence d'une cinéphilie qui considérait justement que Bergman et tout c'était pas bien du tout, que tout ce cinéma intellectuel, bon, Bergman, Fellini, Antonioni, c'était ennuyeux, et que le vrai cinéma c'était le cinéma hollywoodien, les westerns, la comédie musicale, donc il fallait mettre ça de côté. Je me souviens comme ça, j'avais été voir La Ventura et un copain qui m'a dit ce que t'es allé voir, ça c'est ennuyeux comme la pluie, le vrai film qu'il faut voir aujourd'hui c'est La Bataille de Marathon de Jacques Tourneur. J'ai pas vu La Bataille de Marathon, mais c'est vrai que du coup je me suis un petit peu lancé dans cette espèce d'aventure cinéphilique où tout d'un coup on bouleversait les critères esthétiques admis. C'était ça qui était je crois quelque chose d'important dans le phénomène cinéphilique. Bon, le cinéma est un art privilégié pour moi parce que en gros c'est un art qui a quand même été largement constitué comme art par ses spectateurs, quoi. On sait à quel point des générations de gens sont épuisés à vouloir faire un art populaire, un art pour le peuple, un théâtre pour le peuple, et des musées pour le peuple, et tout ce qu'on peut imaginer pour le peuple. Et puis, bon, d'une certaine façon, le cinéma a été fait par les spectateurs, par n'importe qui. Bon, maintenant, on a des théories du cinéma, des histoires du cinéma, un peu, chaque chose, en quelque sorte, a été universitarisée, si on peut dire, quoi. Mais c'était pas le cas à l'époque. C'est vrai que, effectivement, ces divertissements bergmaniens ont été importants.
Alors, vous avez publié La Fable cinématographique, puis Le Destin des images, et un livre très important pour voir comprendre les enjeux du cinéma, mais aussi la signification de certaines images. Un livre qui lie la philosophie à la pensée et à la métaphysique, qui s'intitule Le spectateur émancipé. Et à l'intérieur de ce livre, vous inventez des concepts, et notamment le concept de image pensive. Et dans ce chapitre de l'image pensive, vous étudiez une photographie que personnellement je ne connaissais pas, de Lewis Hine, qui s'intitule « Débile dans une institution ». C'est une photographie prise dans le New Jersey en 1924, sur laquelle Barthes s'est beaucoup exprimé. Il a dit que cette photographie pouvait congédier tout savoir et toute culture. Et j'aimerais bien que nous puissions nous arrêter sur cette image et que vous puissiez la décrire, Jacques Rancière, parce que elle nous porte dans l'impensé, dans l'impensable, mais vous, justement, vous en avez fait un concept, image pensive.
Bon, alors décrire l'image, bon, on est obligé de la décrire comme à travers les mots de Barthes. Donc il y a deux enfants, deux petits débiles de profil, il y a le petit garçon, enfin le petit garçon, on sait pas quel âge ils ont finalement, le petit, en tout cas qui est devant, petit, et il a un grand col, il a un col qui est aussi grand que sinon plus grand que sa tête, quoi. Et puis derrière, il y a la petite fille qui est le double de sa taille, le petit garçon lui arrive donc exactement à la taille, et bon, elle est là avec son tablier blanc, son bras gauche tendu, et bon, rien de très expressif dans sa tête, sur un fond comme ça de prairies et puis de d'arbres. Et Barthes en fait un exemple de ce qu'il appelle le punctum. Donc bon, il y a ces deux concepts, on sait, chez Barthes, le studium, qui est bon le contenu en quelque sorte informatif de l'image, et le punctum, à savoir ce par quoi vraiment l'image vient vous poindre directement. Et Barthes dit, c'est toujours au fond un petit détail qui va vous poindre, quoi. Et par exemple, dit-il, bon, je m'intéresse pas à la grosse tête de la fille, à la petite tête du garçon, je m'intéresse à cet énorme col, donc qu'on appelle un col Danton, enfin c'est lui en tout cas qui l'appelle un col Danton, et je m'intéresse à la poupée au doigt de la petite fille. C'est un tout petit bandage comme ça qu'on met sur un doigt, quoi. Et bon, ce que j'ai essayé de dire, que c'est que peut-être Barthes opérait un petit peu un court-circuit concernant la pensivité de l'image, parce que finalement, il s'agit toujours pour lui, dans l'image, de voir quelque chose comme une sorte de singularité irréductible qui vient comme ça nous frapper d'un seul coup. Or, et en gros, cette singularité irréductible, c'est toujours en définitive ce qu'il appelle l'avoir été, le fait qu'il y a les gens qui ont été là, comme ça, à un moment donné, en face de l'objectif, et bien sûr, l'avoir été, c'est aussi l'être mort. Et en définitive, je dirais que pour Barthes, c'est toujours comme messagère de la mort, finalement, que la photo fait effet, quoi. Alors j'ai essayé de dire que peut-être il faut penser autrement à la pensivité. Que la pensivité, justement, c'est pas ce pouvoir de nous affecter, c'est justement c'est une forme, je dirais, d'autonomie de l'image. C'est-à-dire que d'un côté, nous pouvons décrire l'image avec sa contenue, en même temps, il y a quelque chose qui nous résiste, quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et autrement dit, en un sens, l'image a été prise par quelqu'un pour montrer quelque chose, et nous y voyons quelque chose, éventuellement nous y interprétons quelque chose, et en même temps il y a quelque chose dans l'image que nous ne pénétrons pas, quelque chose qui nous résiste. Et pour moi, c'est cette tension qui fait les images en général. Donc Lewis Hine, par exemple, le même photographe, a pris toute une série de photos d'autres enfants, des petits enfants ouvriers, c'était 15 ans avant, d'une enquête sur le travail ouvrier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants, il les photographie pour montrer l'horreur du travail, quoi. Et ils sont tous très gais, ils se tiennent tous très bien, quoi. Et finalement, je dirais, le message qui voudrait dire regardez l'horreur du travail des enfants se retourne en réalité. Il y a comme une résistance de l'enfant à signifier ce qu'il devrait signifier. Et on comprend à ce moment-là que, bon, finalement, l'horreur de leurs conditions, c'est pas tellement ce travail qu'ils sont condamnés, que la capacité, en quelque sorte, qu'ils ne peuvent pas employer.
Oui, ça, vous aimez bien, Jacques Rancière, quand, justement, le discours se transforme en son inverse. C'est ça qui vous intéresse, c'est cette dialectique-là.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on prend une image et que l'image montre autre chose que ce qu'on voulait prendre. Bon, ça, je crois que c'est effectivement toujours important, de même que, on cherche quelque chose dans un texte, le texte dit autre chose. Et bon, je dirais que la pensée et l'image marchent justement par ce fait qu'il y a toujours une résistance à l'interprétation, qui n'est pas justement une espèce de résistance absolue, la singularité absolue à la Barthes, mais bon, qui est l'origine d'un travail nouveau, toujours.
Merci Jacques Rancière, on se retrouvera demain. Je rappelle les titres des derniers livres. Livre, Aesthésie, scène du régime esthétique de l'art aux éditions Galilée, Le sillon du poème en lisant Philippe Beck aux éditions Nous, et Figure de l'histoire aux presses universitaires de France. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Jean-Richard Dufour, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée. Thank you.